15 degrés à Victoria avec un ciel partiellement nuageux. Bonjour à tous les auditeurs de CILS FM 107,9. Merci d'être avec nous en cette fin de journée. C'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien du lundi au jeudi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. En interview aujourd'hui, je m'entretiens avec notre chroniqueuse régulière Marie-Hélène Bourret, une habituée de CILS FM. Nous allons revenir sur certains points saillants et différents aspects de l'attentat commis contre la communauté gay d'Orlando en fin de semaine. Restez à l'écoute, ce sera en fin d'émission. En attendant, voici les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouvera dans quelques minutes avec la suite des infos. La production du débrief est rendue possible grâce à l'appui du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Rencontre des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de l'innovation et du développement économique. Le ministère fédéral a présenté son approche pour mettre au point un programme d'innovation inclusif. Le but de celui-ci, créer un plus grand nombre d'emplois pour les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne. Tous les ministres ont fait part de leur point de vue et ont exprimé leur engagement à continuer à collaborer afin de mieux cerner les réseaux sectoriels ayant le potentiel d'être des foyers d'innovation au Canada. Il s'agissait de la première fois en 12 ans que les ministres se rencontraient. Lancement d'un examen indépendant sur le financement fédéral aux sciences fondamentales. L'examen se penchera sur les mécanismes des programmes actuels de soutien aux sciences et aux scientifiques du pays. Plusieurs conseils et organismes financés par l'État seront ainsi visés par l'examen, entre autres la Fondation canadienne pour l'innovation. L'examen sera effectué par un groupe d'experts indépendants provenant des milieux universitaires et des affaires. Parmi ces experts, notons Art MacDonald, ancien directeur de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury et titulaire d'un prix Nobel. Jusqu'à samedi, c'est la Semaine nationale du don de sang au Canada. La Société canadienne du sang a indiqué dans un communiqué rendre hommage aux donneurs de sang des quatre coins du pays. Mark Donison, vice-président aux relations avec les donneurs à la Société, a dit qu'une personne sur deux pourrait donner du sang, mais en réalité, une personne sur 60 le fait. Il a rappelé que l'événement célèbre les personnes qui aident les gens, et ce de manière tout à fait altruiste. Navdi Bains prononcera la première allocution à l'occasion du Forum public du Canada, qui a pour thème « Notre prochain grand défi, devenir une nation d'innovateurs ». Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique traitera de ce qui peut être fait pour que le Canada devienne un chef de file mondial en matière d'innovation. L'événement servira aussi à lancer le projet Canada 2020 Innovation. L'événement est prévu en fin de journée à Ottawa. Justin Trudeau a annoncé un soutien supplémentaire de 69 millions de dollars pour favoriser le bien-être mental des communautés autochtones. Le premier ministre a dit que les pertes de vie attribuables au suicide ainsi que le sentiment de découragement ressenti dans ces communautés est tragique et complètement inacceptable. Il a dit que des gestes urgents sont nécessaires et qu'il faut les accomplir dès maintenant. Aux États-Unis, eh bien, Donald Trump a réitéré son plan de fermer les frontières américaines à l'immigration islamique. Il a attaqué d'ailleurs la politique d'Hillary Clinton, qui, selon l'homme d'affaires, est propice à l'entrée d'extrémistes aux États-Unis. Et selon lui, l'ancienne secrétaire d'État ne connaît pas le dossier de l'extrémisme. Donald Trump a terminé son point de presse en rappelant que les États-Unis doivent être alertes et prêts à agir. La Commission canadienne des droits de la personne a fait à son tour une déclaration suite aux événements d'Orlando en Floride. Marie-Claude Landry, présidente de la Commission, a déclaré qu'ensemble, nous sommes solidaires avec la communauté gay, lesbienne et transgenre et les gens qui la supportent. Elle a ajouté que plus que jamais, l'inclusion, l'égalité et le respect doivent habiter les gens et faire partie des valeurs et guider tous les aspects de la vie. Marie-Claude Landry a mentionné également que la tragédie d'Orlando renforce la détermination de la Commission à l'égard de chaque personne. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a lancé une campagne de sensibilisation nationale sur la sécurité et de plus a rappelé que le gouvernement canadien avait l'intention de proposer une toute nouvelle réglementation sur les drones. Il a présenté le panneau « Drones interdits » pour rappeler au public d'utiliser leurs appareils seulement là où ils sont permis. Les panneaux seront répartis dans plusieurs aéroports du pays. Transport Canada proposera une réglementation au cours des prochains mois et envisage certains changements pour notamment instaurer des exigences de marquage. Au sport au baseball majeur, victoire des Phillies de Philadelphie 7-0 contre les Blue Jays de Toronto. Les deux mêmes équipes s'affrontent à nouveau ce soir. Dans la finale de la NBA maintenant, victoire de Cleveland 112-97 contre Golden State. Les Cavaliers demeurent en vie. Le sixième match aura lieu jeudi à Cleveland. Football canadien, match pré-saison, victoire d'Ottawa 18-14 contre Winnipeg. Au hockey, Daniel Alfredsson a signé une prolongation de contrat d'un an avec les Sénateurs d'Ottawa. L'ancien capitaine des Sénateurs est conseiller principal aux opérations hockey. Et toujours au hockey, en terminant, selon Darren Dreger du réseau TSN, les Ducks d'Anaheim devraient au cours des prochaines heures faire l'embauche de Randy Carlyle à titre d'entraîneur-chef.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. L'émission Le Débrief se poursuit. On va passer aux nouvelles provinciales à présent. Un nombre grandissant de professionnels de la santé appellent les autorités sanitaires de l'île de Vancouver à dresser un bilan réaliste des premiers mois d'utilisation de la nouvelle solution numérique iHealth. L'organisme Island Health, oui, l'organisme gouvernemental qui est en charge de la santé publique sur l'île de Vancouver, a connu des difficultés à l'occasion du lancement récent, il y a quelques mois, de la solution iHealth, un projet de 170 millions de dollars qui prévoit l'élimination des dossiers médicaux imprimés, donc par extension, l'élimination du papier, tout simplement. La transition vers ce nouveau système iHealth est difficile pour certains intervenants, dont plusieurs médecins. On en avait déjà parlé dans l'émission. Et actuellement, il y a une pétition demandant l'arrêt du nouveau système, le temps d'y apporter les correctifs nécessaires. Cette pétition circule dans les milieux de la santé de l'île de Vancouver. Elle aurait recueilli plus de 100 signatures. La plupart sont des signatures de médecins. La grogne est particulièrement marquée du côté du Nanaimo Regional Hospital. Pour plus amples infos là-dessus, on peut consulter Vic News qui a suivi ce dossier de près. Vic News qui est un portail d'infos du Grand Victoria. Autrement, je vous parle du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. On apprend sous la plume de Fanny Bédard dans le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique, que le CSF prévoit améliorer sa communication avec la communauté francophone. La présidente du conseil d'administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le CSF, soutient que la communication avec la communauté francophone sera améliorée. Elle demande aux organismes de faire leur part. La présidente soutient qu'elle n'a pas été surprise par les critiques qui ont été formulées lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique la fin de semaine dernière, critique qui avait été formulée au sujet du manque de collaboration entre le conseil scolaire et les organismes francophones. Marie-France Lapierre précise également qu'elle n'a pas pu assister à la dernière Assemblée annuelle de la Fédération qui avait lieu en même temps que la collation des grades des élèves du CSF. L'administratrice explique ainsi que des changements importants ont eu lieu au sein du CSF dans les trois dernières années, notamment des départs de cadres et de détenteurs de postes clés. C'est bien évident qu'on a eu moins de temps à passer avec les communautés, a-t-elle indiqué, avant d'ajouter que le CSF avait quand même toujours entretenu des liens avec ces organismes. Madame Lapierre soutient que les postes en question ont été pourvus et que l'accent sera maintenant davantage mis sur les liens avec la communauté. Elle a affirmé à la journaliste de Radio-Canada que le CSF avait adopté récemment une résolution visant à restructurer le département des communications. Un sujet qui revient, les espèces exotiques au large de nos côtes, donc au large de la Colombie-Britannique. C'est un sujet dont je vous avais parlé dans le débrief. En avril, David Suzuki, l'environnementaliste bien connu, avait signé une chronique sur le portail straight.com pour signaler l'apparition de plus en plus fréquente de ces espèces exotiques dans les eaux de la Colombie-Britannique. Alors, la plus récente en date, c'est un dauphin. Des dauphins communs à bec court aurait été vue dans le détroit Juan de Fuca, au sud de Victoria, à proximité de Port Angeles, dans l'État de Washington. C'est ce que rapportent différents médias aujourd'hui, mardi. Ce dauphin, donc, est le dernier en liste d'une longue série d'espèces exotiques observées ces dernières années tout au long du littoral britanno-colombien. C'est un phénomène, bien sûr, qui est attribuable largement aux effets du réchauffement climatique et occasionnellement au courant El Niño. Rappelons qu'un nombre croissant d'espèces comme des raies électriques ont été attrapées par des pêcheurs dans les eaux au large de la Colombie-Britannique au cours des dernières années. Une vingtaine de raies électriques auraient été pêchées au cours de la seule année 2015. Cette espèce se retrouve normalement beaucoup plus au sud, soit en Californie et en Basse-Californie, du côté du Mexique même. Mais cette espèce étant, comme plusieurs autres, son territoire vers le nord en raison du réchauffement. On peut citer également des espèces comme le fou brun, qui est un oiseau, l'otarie de l'île de Guadeloupe, la tortue verte et le dauphin de Rissot, aperçu également au large de notre littoral. Je vous parle à présent du Sénat à Ottawa, qui souhaite l'élimination des barrières commerciales entre les provinces, et ça concerne bien sûr la Colombie-Britannique. Un comité sénatorial demande au Parlement d'offrir aux Canadiens un cadeau de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, c'est-à-dire l'abolition des barrières commerciales entre les provinces. C'est un texte qui paraît dans le Journal de Montréal aujourd'hui. L'auteur indique « Les divergences réglementaires superflues créent des murs qui empêchent la libre circulation des gens, des biens et des services, des investissements également entre les provinces et territoires », ont écrit un groupe de sénateurs dans un rapport présenté mardi, aujourd'hui, à Ottawa. Le Sénat a ainsi dressé la liste des 10 barrières intérieures les plus absurdes qui réduisent, selon eux, le produit intérieur brut du Canada, donc, et qui le pénalisent jusqu'à hauteur de 130 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas rien. Le rapport du Sénat donne, par exemple, ce cas qui concerne la Colombie-Britannique et l'Alberta. En Colombie-Britannique, certains types de camions ne peuvent pas être conduits le jour, donc ils peuvent seulement être conduits la nuit. Et du côté de l'Alberta, c'est l'inverse. Ces mêmes camions peuvent uniquement être conduits le jour. Le rêve de tout insomniaque, ironise-t-on même dans ce rapport du comité sénatorial permanent des banques et du commerce au Sénat. C'est rapporté par l'agence QMI aujourd'hui, mardi 14 juin. Autrement, toujours en Colombie-Britannique, on a une action en justice contre un faux denturologiste qui sévit actuellement en Colombie-Britannique. Plusieurs organismes de réglementation de la province demandent à la Cour suprême de Colombie-Britannique de mettre un frein aux activités d'un faux denturologiste qui exerce sans permis dans la région de Vancouver. Cet individu propose sur le site Craigslist, notamment, des prothèses dentaires faites à partir d'argent à modeler. La requête réclame une amende particulière, estimant que le comportement du suspect fait courir des risques importants au public. J'aurais également voulu vous parler de cette experte de Victoria en art rupestre, c'est-à-dire en art des cavernes et des grottes. Occupé par nos ancêtres de la préhistoire. Donc, c'est une experte en art rupestre. Elle s'appelle Geneviève Van Pettinger. Elle enseigne à l'Université de Victoria. Elle vient de recevoir une distinction de la National Geographic Society. Elle a été nommée exploratrice émergente par la National Geographic Society. Donc, c'est une distinction remarquable pour cette prof de UVic. On trouve cette nouvelle dans le site Victoria News. On va se tourner vers la météo. On a sur Victoria, comme je vous le disais, 15 degrés Celsius. Il y a des risques d'orage et de pluie en soirée. La probabilité est à environ 60%. On va à présent se tourner en musique. On écoute la formation Baba Sissoko avec la pièce « Il faut pas écouter ».
Il faut pas écouter les gens qui parlent dernière. Cette gens, ils s'appellent les gaspilleurs.
Écoutez la formation Baba Sissoko à l'antenne de CLS FM 107,9, 15h, 16h, 18h. On est dans la partie nouvelle du jour de l'émission. On se penche sur cet événement tragique, cet attentat commis à Orlando en fin de semaine contre la communauté LGBT. On y revient. C'est dans les médias, bien sûr. C'est à l'avant-plan de l'actualité. On a un texte qui donne des frissons dans Le Soleil, un quotidien de la ville de Québec, qui fait état d'une pétition visant à légaliser l'arme qui a été utilisée par le tireur radicalisé, le tireur terroriste de l'attentat d'Orlando. Donc, c'est une pétition pour vendre sans restriction l'arme du tueur d'Orlando au Canada. C'est dans Le Soleil aujourd'hui. Une pétition circule au Canada pour que l'AR-15, cette arme utilisée dans la tuerie de samedi à Orlando en Floride, soit vendue sans restriction au Canada. Les organisations pour ce changement de statut soutiennent qu'elle n'est pas plus dangereuse que d'autres armes de même type déjà vendues sans restriction au pays. On croit rêver le surlendemain d'un attentat de ce genre qu'une pétition puisse être mise en ligne et recueillir des signatures de la sorte. C'est vraiment étonnant. La pétition en ligne, elle est en ligne en fait depuis janvier. Elle a recueilli 25 000 signatures. Elle est parrainée par Bob Zimmer, sans surprise, donc un député conservateur de Colombie-Britannique, en fait la circonscription Prince George Peace River. C'est dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Le fusil AR-15 est actuellement considéré comme une arme à utilisation restreinte. Dieu merci. L'article poursuit. Il ne peut être employé que pour le tir sportif dans les clubs de tir et non pour la chasse. Les acquéreurs doivent posséder un permis d'arme à utilisation restreinte. À l'origine, c'est une arme d'assaut automatique appelée le M16, utilisée pendant la guerre du Vietnam. Pour ceux qui connaissent bien leur cinéma des années 70 et 80, les films de guerre montraient cette arme régulièrement. Donc, vous avez à peu près une idée de son aspect. C'est une arme de guerre, du moins au sens de son look et de sa facture. Elle peut d'ailleurs être modifiée et devenir encore plus dangereuse. Donc, cette version vendue au Canada, poursuit l'auteur, est la version « civile », entre guillemets. Il s'agit d'une arme semi-automatique avec un chargeur pouvant contenir 5 cartouches de 223 mm, un calibre qui est suffisant pour tuer un coyote ou une marmotte, mais pas le gros gibier, indique Guy Morin, vice-président du mouvement Tous contre un registre québécois des armes à feu et collectionneurs d'armes. Guy Morin soutient que la classification de l'AR-15 dans la catégorie des armes à utilisation restreinte dans les années 90 ne s'est pas faite pour les bonnes raisons. Son apparence, dit-il, un peu plus épeurante, qui rappelle la guerre, lui a nui plus que son caractère dangereux. D'autres armes avec exactement les mêmes caractéristiques techniques sont actuellement vendues sans restriction. Cette arme, et poursuit l'article, est appréciée particulièrement par les femmes pour sa légèreté, sa crosse ajustable et la faiblesse du recul dans l'épaule lors du tir, ajoute Guy Morin, donc de cette association contre le registre des armes à feu. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit parmi les armes les plus vendues aux États-Unis. Une autre personne interviewée dans cet article, un avocat, Maître Guy Lavergne, il représente l'Association canadienne pour les armes à feu, appuie les propos de Guy Morin. C'est pour des considérations esthétiques que le AR-15 a été catégorisé dans les armes à utilisation restreinte il y a une vingtaine d'années, selon lui. La puissance, la capacité de tir et la dangerosité de cette arme sont exactement les mêmes que d'autres armes actuellement non restreintes, dit-il. Évidemment, indique l'auteur de l'article, une personne mal intentionnée et bien informée peut transformer cette arme en arme automatique, c'est-à-dire vider un chargeur en une seule pression du doigt ou changer le dispositif de chargement pour en faire passer de 5 à 30 balles. Encore une fois, d'autres armes actuellement disponibles sur le marché sans restriction peuvent être trafiquées, précise l'auteur. Donc voilà, c'est un article qui fait état de ce mouvement au Canada visant la non-restriction d'armes automatiques. C'est assez inquiétant. Donc leur argument finalement, c'est que l'AR-15 plutôt, qui a été utilisé à Orlando, ne devrait pas se retrouver dans la liste des armes à usage restreint, puisque d'autres armes du même calibre sont, elles, permises et en vente libre. Alors, c'est un argument un petit peu court. Malheureusement, espérons que ça n'aura aucun écho sur la scène politique. On va se tourner maintenant vers d'autres petites nouvelles que je voulais vous signaler. Il y a bien sûr une nouvelle qui est tombée dans la LNH aujourd'hui, la Ligue nationale de hockey. On a appris que Las Vegas allait obtenir une équipe de hockey professionnelle. Donc c'est une nouvelle qui ne plaira pas aux partisans de Québec qui souhaitaient le retour des Nordiques très rapidement. Alors ce sera pour une autre fois concernant les Nordiques de Québec. Pour l'instant, c'est Las Vegas qui rafle la mise. Las Vegas, donc, aura une équipe de hockey de la LNH dans un proche avenir. Autrement, on a eu une énorme manifestation aujourd'hui en France contre la loi travail, une loi qui propose une révision, qui impose, devrais-je dire, une révision complète et très néolibérale dans sa facture du code du travail français. Donc, en réponse à cette loi qui a été passée avec le bâillon, c'est-à-dire en utilisant l'article du 49.3 sans débat à l'Assemblée, en réponse donc à cette loi du gouvernement Valls et Hollande, la population est sortie dans les rues aujourd'hui, 14 juin. Il y a eu une grande manifestation, on a compté 1 million de personnes dans les villes de France et on a déploré un attentat terroriste également la même journée qui a fait 2 morts chez les policiers. Donc, beaucoup de tensions en France actuellement. La contestation sociale se poursuit, bien sûr. On va retourner en musique. On écoute Junior avec la pièce « Je fais le mort ».
Il aurait mieux valu si j'avais su rester de place. J'aurais voulu, si j'avais pu, effacer sa trace et enterrer le corps. Mais dehors, il faisait si bon, tu t'en souviens encore comme les jours étaient longs. Et dehors, il fait si froid, depuis ça fait des mois que je fais le mort. C'est bien connu, les uns déçus, les autres se lassent. Ce gonfle de remords. Moi j'aurais voulu, si j'avais pu, changer de place, déjouer. De battre tous les records. Moi j'aurais voulu, l'hiver venu, que les ardeurs se tassent, se fassent sans effort. Mais dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore comme les jours étaient longs. Et dehors il fait si froid, depuis ça fait des mois. Et dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore que les jours étaient longs. dehors, il fait si froid depuis ça fait des mois que je fais le mal.
Junior, dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'info quotidien à l'antenne de CILS FM 107,9. On est ensemble jusqu'à 17h. On va ouvrir l'agenda culturel, quoi faire sur Victoria. On commence par le cinéma d'art et d'essai Ciné Santa sur le campus de l'Université de Victoria. On a ce soir une projection du long-métrage Patterson's Wager. C'est un long-métrage de fiction de 85 minutes. C'est un film canadien. C'est projeté à 19h et 21h15. C'est une comédie dans laquelle on a un personnage qui est capable de prévoir les événements du futur proche. Et il se demande justement s'il pourrait pas gagner beaucoup d'argent avec cette faculté. Donc, c'est une comédie. C'est ce soir à 19h. Et 21h15, ça s'intitule Patterson's Wager. C'est réalisé par Corbin Saliken. C'est un film de 2015. Autrement, je vous mentionne encore une fois cette toute nouvelle expo qui a ouvert il y a peut-être une dizaine de jours au Royal BC Museum. Ça s'appelle Mammoths, Giants of the Ice Age. Les mammouths, ces géants de l'ère glaciaire. On a bien sûr une star dans cette expo. C'est un petit mammouth très très préservé de façon inouïe et presque incroyable dans la glace pendant plusieurs milliers d'années. C'est donc un spécimen de l'espèce qui aurait perdu la vie il y a 40 000 ans. Il a donc permis aux scientifiques de mieux comprendre cette espèce disparue. Et bien sûr, il est au cœur de cette expo sur les mammouths. C'est au Royal BC Museum. Ça a ouvert ses portes le 3 juin. Je me promets d'y aller moi-même en fin de semaine. Je vous en donnerai des nouvelles. Autrement, je termine l'agenda culturel avec cette activité de Tam Tam africain. C'est un atelier de tam-tam africain qui se déroulera à l'Université de Victoria. C'est ce soir. L'entrée est de 29$. Ça commence à 18h30 et ça se poursuit jusqu'à 20h. C'est un atelier de tam-tam africain qui est donné par Salif Malima Kone. C'est une personne originaire du Burkina Faso. C'est une experte en percussion. Elle donne donc cet atelier à l'Université de Victoria dans l'école de musique. Alors, si vous voulez de plus amples infos, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de Drum Victoria, c'est l'organisme qui est derrière cette activité atelier. Voilà, donc ça conclut le petit tour d'horizon des activités sur Victoria. On va écouter la formation LEJ avec une pièce qui s'intitule Le Mojo.
Il faudra bien que cela finisse. Enfant couleur et glisse, ou clair comme de l'anis. Il y a tant de saveurs, de quoi rester optimiste. Non, ce n'est pas un fardeau, oh, 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 oh. Même si parfois j'ai peur, yeah, que la couleur de la peau, oh, 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 remplace la vraie valeur, yeah. J'ai envie de métissage pour des hommes vrais et tout ce qu'on de la rage. Vas-y, laisse-les. Français métis, c'est pour ça qu'on l'aime. Faut qu'on réagisse sur le monde quoi qu'il advienne. Une souffrance, un supplice, mes angoisses sont les tiennes. Oh, Dali again, oh, Dali again. Je lève très haut foutu drapeau. Ma terre d'exil, mes idéaux. Mes couleurs et mes peines pèseront sur vos fardeaux. Je maîtrise les styles, je maîtrise les flots. Mes origines et mon ego. Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau.
Un appel à la tolérance dans l'émission Le Débrief avec la formation LEJ, la pièce Le Mojo. On va passer à la revue de presse des éditoriaux un petit peu partout sur la toile, principalement francophone. Mais on commence avec le Globe and Mail. Il y a une lettre ouverte très intéressante publiée dans le Globe aujourd'hui. C'est signé par Jeff Ward. C'est le PDG de l'entreprise Animiki. C'est une compagnie qui vient... qui fait des partenariats avec des communautés autochtones un peu partout au pays autour d'enjeux technologiques. Et Jeff Ward, donc, signe cette lettre ouverte dans le Globe aujourd'hui. Il se demande pourquoi la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin, ça approche à grands pas, c'est dans quelques jours à peine, pourquoi cette Journée nationale donc des Autochtones, le 21 juin, n'est pas un jour férié en 2016. Grande question, pourquoi ça n'est pas le cas? Et donc toute cette lettre, sa lettre est très bien, très éloquente sur la question. Il est temps de faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour que le 21 juin soit une journée fériée partout au Canada. C'est déjà le cas dans les territoires du Nord-Ouest. Ce sera bientôt le cas au Yukon si le processus se poursuit sans entrave. Il faudrait que les autres provinces emboîtent le pas. Donc, je vous encourage à lire ce texte de Jeff Ward. C'est paru dans le Globe aujourd'hui. C'est une lettre ouverte. Donc, Jeff Ward, PDG de Animiki, une compagnie qui noue des partenariats avec des communautés autochtones un peu partout au pays autour d'enjeux technologiques. Autrement, j'ai repéré ce texte, oui, dans Le Devoir, dans les pages éditoriales du Devoir. Ça concerne le néolibéralisme et le libre-échange. Et le prétexte de l'auteur, c'est un peu la course à la direction du PQ, mais on va faire abstraction de cette course à la direction. Il y a des points très importants qui sont soulevés par l'auteur Jacques Gélina, qui est sociologue. Il se demande pourquoi on ne parle pas davantage dans la course, dans les courses à la chefferie, par exemple au NPD fédéral, dans les prochaines courses qui auront lieu suite au retrait de M. Mulcair. Pourquoi on ne parle pas des traités de libre-échange? Pourquoi on ne parle pas du néolibéralisme tel qu'il est pratiqué en 2016? Donc, je cite Jacques Gélina dans ce texte. Quels sont les enjeux criants de la conjoncture actuelle? Trois nous sautent à la figure. Numéro un, notre habitat terrestre fragilisé par le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. Numéro deux, l'état social et les services publics en voie de démantèlement par les affairistes au pouvoir. Numéro trois, la justice et la paix sociale mises en péril par le creusement des inégalités au sein de la nation et entre les nations. Ces problèmes affichent une cause commune, le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la primauté du marché sur le politique. C'est la primauté du marché sur le politique, écrit Jacques Gélina dans la presse. Jacques Gélina est sociologue. C'est le monde par-dessus tête, écrit-il. Qu'à cela ne tienne, pénétré de cette idéologie, le tandem Thatcher-Reagan a réussi à l'imposer chez eux d'abord, puis dans le monde entier. Toute la classe politique a fini par suivre et les accords de néo-libre-échange sont venus transformer le néolibéralisme en programme politique. Texte fort intéressant de Jacques B. Gélina, sociologue, dans les pages du Devoir. Je vous le recommande. Autrement, il y a bien sûr beaucoup de textes concernant Orlando, concernant l'attentat terroriste survenu samedi à Orlando dans ce club Pulse, club LGBT. établi de longue date dans la région d'Orlando. Il y a un texte de Félix Deslauriers sur le portail ricochet.media, Ricochet qui est un média indépendant anglophone et francophone. C'est sur le volet francophone du site. Il écrit « Le massacre d'Orlando a fait une cinquantaine de morts et un nombre encore plus grand de blessés dans une boîte de nuit LGBT qu'on disait très fréquentée par des personnes racisées. Cette tragédie est venue désavouer brutalement la certitude trop souvent nourri de nager dans le sens de l'histoire vers un progrès inévitable. L'idée que l'homophobie serait destinée à disparaître d'elle-même opère comme un anesthésiant politique dont il est nécessaire de se débarrasser. Donc il faut demeurer vigilant, croit Félix Deslauriers. Les batailles ne sont pas toutes gagnées. Il faut encore lutter pour faire progresser les esprits. Il écrit encore « Aujourd'hui, la première de ces batailles a pour enjeu la signification des événements du 12 juin. Elle doit être menée sur deux fronts, contre ceux qui y voient un acte dépourvu de sens et contre ceux qui tentent d'en verrouiller le sens pour en faire un nouvel épisode de la guerre des civilisations, soi-disant guerre des civilisations qui les obsède et qui nous empêche de nommer nous-mêmes ce qui nous fait violence. On ne peut donc pas considérer le massacre de dimanche, écrit Félix Deslauriers, comme un acte insensé et inexplicable, comme une parenthèse effroyable dans une marche de l'histoire déjà tracée d'avance. Évidemment, il est légitime d'exprimer de la colère et de la désolation devant une réalité aussi insupportable. Pour autant, il faut éviter d'espérer un apaisement de nos blessures par un simple retour au cours normal des choses. C'est plutôt le cours normal des choses qu'il faut s'employer à transformer. Et c'est à condition de voir tout ce qui fait aujourd'hui obstacle à l'avènement de possibles différends que nous y arriverons. L'auteur rappelle l'assassinat de 14 étudiantes à Polytechnique en 1989. Il écrit qu'il avait fallu déployer des efforts considérables à l'époque pour faire reconnaître le caractère politique et anti-féministe de l'attentat. C'est là où le bas blesse. Il y a plusieurs médias qui se sont abstenus et qui ont évité de souligner le fait que c'était une attaque contre la communauté LGBT. On a fait un peu l'abstraction et on a souvent oublié dans les médias de masse de souligner cette réalité. C'est une attaque qui a été menée et qui ciblait directement la communauté LGBT. Alors c'est en substance le propos de Félix Deslauriers dans Ricochet.media aujourd'hui. Il y a aussi un bon papier dans Le Devoir signé Antoine Robitaille qui lui aussi lance un avertissement. Il ne faudrait pas tomber dans le politiquement abject, dit-il, et se laisser aller au discours du choc des civilisations. Donc on va rester sur le sujet d'Orlando. On va en parler dans quelques instants. J'aurais voulu vous parler d'autres éditos parus un petit peu partout sur la toile. On y reviendra cette semaine. On va rester sur le sujet d'Orlando. En entrevue aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Hélène Bourret, chroniqueuse régulière à CILS FM 107,9. Nous allons donc revenir sur cet attentat terroriste qui a frappé au cœur la communauté LGBT d'Orlando et toutes les communautés LGBT de par le monde. C'est aussi un attentat portant la signature de l'État islamique, donc un attentat qui visait les pays de l'OTAN et l'Occident en général. On y revient dans quelques instants après cette courte pause musicale. We'll be right back. On est de retour à l'antenne de CILS FM 107,9. Vous écoutez le débrief. On est ensemble jusqu'à 17h et cette émission d'info donc se poursuit. On continue dans la veine de l'attentat d'Orlando, donc attentat terroriste commis samedi contre un club gay de la région d'Orlando. Je suis en compagnie de Marie-Hélène Bourret, chroniqueuse régulière à CILS. On l'entend souvent à Sport et Santé Magazine et dans d'autres émissions. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ces événements tragiques survenus à Orlando en fin de semaine?
Moi, ce qui me fatigue le plus, c'est qu'on...
On veut absolument mettre une étiquette, c'est un attentat terroriste, c'est un attentat islamisant, c'est un crime haineux, c'est... Moi, je me suis fait, parce que je suis venue ici, j'ai été invitée, alors je me suis fait comme une espèce de portrait de ce qui s'était passé.
Oui.
Et j'en suis sortie avec trois mots. Trois mots.
Oui.
Alors, c'est ignorance, intolérance, arrogance. Alors, premièrement, ignorance.
Oui.
L'homosexualité, on est né avec, ou on est né hétérosexuel, ou on est né dans un corps qui ne nous appartient pas et on veut en changer. Donc, les gens qui sont ignorants, vont dire c'est le péché qui l'habite, c'est le démon, c'est ça. C'est l'ignorance. Alors, l'ignorance, c'est la base du racisme, c'est la base de l'intolérance religieuse, de l'intolérance sociale, un point c'est tout. Arrogance. Là, c'est là où vient pour moi se greffer l'idée religieuse. Alors, quand on est sûr qu'on détient la vérité parce que cette vérité nous est donnée par un Dieu, peu importe le nom du Dieu, là, je
oui.
fais pas de différence. Qu'on soit baptiste, chrétien, catholique, qu'on
mormon.
Soit hindou, mormon, bouddhiste, ou même qu'on soit musulman, peu importe. Quand on croit dans notre fibre que notre vérité nous vient de Dieu, on devient extrêmement arrogant. Et notre intolérance se justifie. Parce que, hey, je suis ignorant, je suis intolérant, mais j'ai le droit parce que c'est Dieu qui me dit que j'ai le droit. Et ce Dieu-là peut être aussi le pétrodollar ou le narcodollar. Hein, faut pas se leurrer, là, parce qu'il y a différents dieux. Et le pétrodollar va aussi faire la même chose. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'histoire de l'extrémisme actuel, des attentats terroristes actuels de ISIS et tout
mais
ça...
Mais avant que tu parles mm-hmm. de géopolitique, parce que pétrodollar, ça appelle mm-hmm. à une certaine analyse géopolitique, il y a... je pense qu'on va mettre un moment à comprendre tout ce qui s'est passé.
Ouais.
Il y a différentes lignes directrices, différents aspects qui surgissent.
Au fur et à mesure de l'enquête,
tu as,
ouais.
Tu as isolé trois mots qui sont ouais. très, très porteurs et très, qui interpellent énormément. Il y a bien sûr le contrôle des armes.
Ouais, le contrôle des armes, je pense qu'aux États-Unis, à cause de leur fichu deuxième amendement, c'est qui a dit, un de nos élus, Tory et conservateur, a dit
oui.
que, une affaire avec les armes, ça serait pas passé si tout le monde avait été armé. Il a
oui.
donné l'exemple de Wounded Knee, je pense, aux États-Unis. Il a dit, on leur a enlevé leurs armes, ben après ça, on leur a tiré dessus.
C'est un argument fréquent de la NRA.
Oui.
Si les gens avaient été armés, on aurait pu ouais, stopper
mais c'est
le tueur.
Ce qu'ils n'ont pas pensé, c'était que si le tueur n'avait pas été armé,
oui,
ça
voilà.
serait pas arrivé. je veux dire, quand tu veux... Quand on parle de dollars,
voilà.
parce que le NRA, là, c'est de l'argent entity. Là.
C'est une logique qui est très courte, finalement,
ouais.
qui est spécieuse. Et ce que je voulais souligner par rapport à ça, tu sais, quand je disais que c'était complexe, on a aussi découvert, il y a de nouvelles informations qui ont filtré, que le tireur radicalisé
mm-hmm.
vivait une double vie, c'est-à-dire qu'il fréquentait ce club,
mm-hmm.
Le Pulse mm-hmm. d'Orlando. Il s'y rendait depuis quelques années déjà.
Ouais.
Il y passait ses soirées. Donc,
mm-hmm.
il avait sans doute des problèmes à accepter son identité,
sa propre identité homosexuelle,
son orientation,
ouais.
etc. Donc, voilà, donc il y a...
Mais vois-tu, c'est là que l'ignorance vient encore.
Voilà.
Parce que quand on est renseigné, et ce n'est pas les moyens qui manquent dans le monde de l'homosexualité, il y a des groupes de soutien, il y a de l'information disponible, mais en partant, il est borné, OK? Dieu dit... que un homme ne doit pas approcher un homme comme il approcherait une femme. C'est dans le Coran. Je l'ai lu, je le sais. Bon, peut-être pas dans les mots exacts, là, je m'en excuse, mais c'est ça que ça dit. Donc, il est ignorant. Et le droit divin prend la force sur tout. Donc, au lieu de dire, bon, ben, je vais gérer mes propres problèmes, il va aller et détruire les gens qu'il rend responsables de son problème. C'est leur faute. C'est leur faute si lui a des penchants homosexuels.
Voilà. Et il y a de tout dans les textes sacrés, hein. Donc, ouais. on peut prendre, en prendre et en laisser. Malheureusement, si on regarde l'Ancien Testament, il y a, y a toutes sortes d'invitations également.
Ouais.
Donc, à présent, ce que je voulais aussi souligner, c'est que les médias ont eu du mal à accepter que c'était une attaque contre les LGBT.
Mmh.
On a dit c'est une attaque contre des innocents.
Ouais.
On a dit c'est une attaque contre tous les êtres humains qui veulent vivre leur style
vie,
de
ouais.
vie, vivre librement.
Mmh.
Et donc, c'est un petit peu le message de la droite aussi qui essaie d'occulter cette réalité.
Ben, c'est parce que si on parle surtout de la droite américaine,
oui.
qui est très religieuse.
C'est ça.
Et qui refuse l'homosexualité. Oui. Donc, il dit que l'homosexualité est une maladie, qu'on peut aller dans des séminaires de fin de semaine par la prière, se guérir, entre guillemets. C'est du sarcasme, là.
Oui.
Faut bien m'entendre là-dessus, qu'on peut guérir de son homosexualité. Mais ce sont les mêmes gens qui ne peuvent pas accepter que c'est une attaque, parce que
oui.
ça serait de dire, ben, on est comme d'accord un petit peu avec ce qui s'est passé, tu sais,
voilà.
ils peuvent pas se permettre de dire ça. Et le fait que les médias refusent de dire que c'est une attaque ciblée, moi, je te dirais, dans le sens où tout ce qui n'est pas conforme, parce que, on se souvient, là, ces gens-là pensent qu'ils ont la vérité, la seule vérité qui leur est donnée par un Dieu unique qui les pousse, qui leur demande de faire des actions comme ça.
Mmh.
Alors, que ce soit Polytechnique que tu as mentionné, et je suis contente que tu l'aies mentionné tantôt,
oui.
que ce soit Polytechnique, que ça soit... J'ai lu quelque chose d'extraordinaire sur Facebook, je sais, on reçoit tout le temps des textes, là, et le jeune homme disait très bien que ce soit Polytechnique qui était faite contre les femmes.
Oui, et à l'époque, on avait eu du mal à
le faire accepter.
Que c'était
ouais.
contre les femmes.
Et mais si
mais
tu
aujourd'hui,
te souviens...
c'est inouï qu'on puisse... On a du mal à croire qu'à l'époque, certaines voix
ouais.
n'ont pas voulu accepter
moi,
que
je pense,
c'était contre
je pense que tant qu'on
femmes.
Restera dans le politiquement correct, hein, on sera pas capable de nommer les choses telles qu'elles sont. Tant qu'on va en être là, on sera pas capable de régler le problème. Parce que, et je ne peux pas le dire parce que mes propos engageraient la radio, mais tant qu'on reste à dire « Ah, oh, ben c'était un malade mental qui... » Tant qu'on en reste à ça, là, oui, c'est vrai, le gars, il avait pas toute sa tête, là. On mm-hmm. s'entend, là, l'extrémisme, là, c'est pas les gens là, qui sont les plus sains d'esprit, là,
mm-hmm.
OK? Mais tant qu'on en restera à ne pas vouloir nommer les choses, c'était une attaque contre les gens
oui.
qui vivaient librement leur sexualité, comme... on l'a dans notre culture.
Oui.
Ma culture à moi, ta culture à toi, la culture américaine, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises,
oui.
OK? Qui sont bonnes pour les humains, qui sont mauvaises pour les humains. Mais on s'est construit une culture, on s'est construit des valeurs, et ce sont ces valeurs-là, individuellement, petit à petit, qui sont grugées les unes après les autres. Et tant qu'on ne dira pas que c'est une tentative d'islamisation, tant qu'on ne le dira pas, je
oui.
le dis pas,
mais c'est,
on sera pas capable de régler le problème.
Je pense qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde dans ce débat-là, mais ce sont des gens qui se réclament de l'islam, mais qui souvent ne pratiquent même pas l'islam, qui fument, qui boivent,
ouais, ouais.
Qui ne connaissent pas les textes,
ouais.
ils ne savent même pas lire le Coran.
Okay, je vais te dire...
Mais je veux passer à mon point suivant, c'est qu'il faut aussi s'attaquer aux racines du problème. Où est l'origine de cette radicalisation-là? Elle se situe au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, qui exporte son wahhabisme extrême et radical dans les régions périphériques du Moyen-Orient et en Europe, dans des communautés
Écoute, ça va plus loin
immigrées.
Que ça. Ça va plus loin que ça qu'elle
nous
est
leur vendons des armes, nous
ouais.
leur vendons des armes à coût de milliards.
L'ANR, ouais,
et eux,
Canada.
Et eux s'en servent donc pour faire avancer ce programme de société, cette vision islamique. Parce que...
Ok, mais ça va plus loin, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, ce n'est qu'un moyen par lequel ils sont capables de le faire. Mais la racine du problème, c'est le fait que ces gens-là ont pas d'emploi, vivent sous le seuil de la pauvreté, sont ignorants. Là, quand tu dis là, ignorant, là, on enseigne seulement les livres religieux. On n'apprend pas l'algèbre, la géométrie, oui. Une deuxième langue. On leur apprend pas des métiers.
Mais non.
Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens qui sont au pouvoir et qui se remplissent les poches dans ces pays-là, qui font des échanges d'armes avec la NRA, avec le Canada, pour ne pas en parler, avec l'Arabie Saoudite, par exemple,
on leur vend des armes.
Et les gens qui sont en poste diabolisent nous. OK? Diabolise l'Ouest, l'Occident. Et tant que les gens de ces pays-là vont croire que leur problème de pas avoir assez à manger, de pas être éduqué, de mourir de la malaria alors qu'il y a des princes, des rois dans des palais, tant qu'ils vont croire que leur problème vient de l'Occident et il en vient en partie, c'est nous qui vont attaquer.
Oui, en partie, parce qu'on leur vend des armes,
oui,
on
ils
supporte
pas
leur despote,
oui, c'est ça.
On finance leur oligarchie,
oui.
Et donc on perpétue les problèmes qui sont dans ces pays-là. Oui. Il faudrait que l'ONU ait plus de pouvoir. Il faudrait des politiques de développement humain fondées sur l'éducation et la santé dans les pays en développement.
Ouais.
Il faudrait nouer des dialogues avec des pays qui ont pas besoin d'être développés, puisque l'Arabie saoudite est hyper développée.
Ouais.
Elle est hyper développée, très riche.
Mais ils ont encore des esclaves.
Oui, ben c'est ça.
Donc, si on regarde le Yémen, par exemple, et l'Érythrée, ils sont les plus grands producteurs de pavots. C'est parce que dans l'islam, t'es pas supposé de fumer du pavot. À qui tu l'exportes, ton pavot? Ben, tu l'exportes aux États-Unis. Tu l'exportes en Europe. Et c'est qui les propriétaires des terrains? Ce sont des imams. Mais les gens qui étaient sur ces terres-là avant, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ben, ils ont été mis dehors, ils n'ont plus rien à manger. Mais c'est la faute de l'Occident. Alors, tant qu'il n'y a pas une instruction, l'éducation, là, c'est la porte. Si on éduquait les femmes, si on éduquait les hommes de nos pays, et de ces pays-là, les choses changeraient. Mais si tu parles aux gens dans la rue ici, tout ce qu'ils vont dire, c'est « Ah, oh, le niqab! » Ben, là, un instant, là.
Oui, c'est ça, mais...
La femme, la raison pour laquelle elle porte son niqab, c'est parce qu'elle a appris que c'est comme ça qu'il fallait qu'elle s'habille.
Oui, et puis le niqab, c'est un... Je veux dire, ça cristallise et puis ça limite le débat.
Oui.
Ça nous empêche de discuter.
De voir la vraie affaire.
Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je dis qu'on devrait... dans un monde idéal, avoir une organisation des Nations Unies qui est plus forte et qui peut aider, favoriser le développement des régions sous-développées et nouer des dialogues, des échanges avec les pays qui ont justement des gouvernements totalitaires.
Ben, vois-tu, là, 4-5 ans, le Canada, on aurait dû signer une entente avec les autres pays pour que les pays exportateurs d'armes soit tenu responsable. Alors, si, mettons, un Américain commet un crime avec une arme qui a été vendue par le Canada est responsable de cette mort-là.
Oui, quelque part.
Mais on ne l'a pas signé, puis je ne sais pas si le gouvernement actuel va le faire.
Il y a des pays scandinaves qui ont commencé à cesser leurs exportations vers l'Arabie saoudite, qui, soit dit en passant, bombardent des populations civiles au Yémen à l'heure où on se parle, en ce moment même. L'Arabie saoudite, qui est Kamel Daoud, l'auteur algérien, a signé un texte dans le New York Times récemment dans lequel il disait que l'État islamique, l'extrémisme, avait un père et une mère. Son père, c'est la destruction totale de l'Irak, qui est aujourd'hui un champ de ruines fumantes et un terrain parfait pour le terrorisme. Et l'autre parent, c'est l'Arabie saoudite et sa forme de wahhabisme exporté, exportable, qui justement pourrit les consciences un peu partout, en Syrie notamment, et même en Europe.
Et mais encore là, c'est parce que ces gens-là, on ne s'en rend pas compte, vivent des situations où ils sont totalement désespérés et où, et on a eu ça au Québec il y a plusieurs années, dans les années 60, on disait que la religion était l'opium du peuple. Et c'est vraiment ça. Donne la religion à un peuple, rentre la religion dans l'État, et à ce moment-là, tu peux être sûr que les gens vont être endormis à la vraie réalité, ils vont se mettre comme n'importe quel drogué à avoir des actions. c'est chaque individu qu'il faut aller guérir. C'est à chaque individu qu'il faut donner de l'instruction, des chances de travailler, de gagner sa vie, de boire de l'eau propre, de manger à tous les jours, 3 repas par jour.
Ouais.
À chacun des individus. Parce que si on passe par en haut, parce que là, c'est un débat, donc je suis plus ou moins d'accord avec toi, oui, l'ONU, mais c'est par en dessous qu'il faut rentrer. Il faut rentrer avec les organismes qui font du travail sur le terrain, qui vont creuser des puits.
Les ONG.
Qui vont enseigner aux femmes la contraception, qui vont montrer aux hommes qu'on peut travailler en communauté et non pas se battre les uns les autres. Oui. Alors, c'est là qu'il faut aller travailler, selon moi. C'est un travail d'individu à individu.
Mais j'espère qu'on poursuivra cette conversation, Marie-Hélène. Merci.
On va en parler pendant des heures.
Oui, en effet, on a vraiment lancé le temps, malheureusement, nous manque. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous pour cette heure d'information. Le débrief vous revient demain, mercredi, même heure, 16h. En attendant, vous avez dans quelques minutes Allô la planète, l'excellente émission animée par Éric Lange. On se dit à demain. Bonne soirée.
Au revoir.